C'est Paul qui écrit « De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelles persécutions n'ai-je pas supportées ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Voilà notre passage pour la prédication aujourd'hui. Je vais juste vérifier un truc derrière, donc juste 30 secondes de pause, les amis. Voilà, désolé, on est en effectif réduit. J'espère que le son est bon quand même. Il y a peut-être un petit peu d'écho, mais restez avec nous. J'espère que ça ne nous empêchera pas de profiter et d'écouter la parole de Dieu. Et avant de se lancer à nouveau, les amis, je vais vous proposer de prier brièvement. Je vais prier que Dieu nous aide. Notre Dieu, on te remercie pour ta parole qui sort de ta bouche, qui est inspirée par toi, qui est soufflée par toi. Et je te prie que tu nous aides à mieux la comprendre ce matin et à mieux la vivre et que tu m'aides à la transmettre fidèlement pour ta gloire. Et je prie ça dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous poser une question pour commencer. Est-ce que vous trouvez la vie chrétienne facile ? Est-ce que vous trouvez la vie chrétienne facile ? Bien sûr, ça part du présupposé que vous êtes chrétien, que vous souhaitez vivre en tant que chrétien, mais est-ce que vous trouvez cette vie en tant que chrétien facile ? Alors c'est vrai qu'en tant que chrétien, on a des privilèges immenses. On a le pardon des péchés, on est en bonne relation avec Dieu. On a la vie éternelle, un avenir glorieux qui nous attend, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment magnifique, il n'y a rien de meilleur et on voudrait échanger ça pour rien au monde. Mais pourtant, il y a quand même pas mal de difficultés, n'est-ce pas ? Il y a la lutte quotidienne avec le péché dans notre vie, il y a les difficultés que l'on rencontre, il y a le diable qui rôde comme un long lion rugissant qui cherche à dévorer. Il y a le mal qui grandit dans ce monde, il y a le monde qui est hostile à l'évangile. On l'a vu la semaine passée, on a eu une prédication sur la première partie de 2 Timothée 3, le début du chapitre, où on a vu qu'on vivait dans ces temps difficiles, où le mal régnait, où le mal grandissait, où c'était l'impiété, le fait de déplaire à Dieu qui allait régner et qui allait gagner du terrain. On avait vu que ces temps difficiles, c'était un peu comme si on parlait de la météo, que il allait avoir des orages, la météo n'allait pas être bonne. Et on peut se demander dans toutes ces choses, dans la vie chrétienne qui nous paraît parfois un peu difficile, dans cet orage dans lequel on est, mais comment tenir ? Comment surmonter ? Comment rester fidèle ? Comment continuer à avancer ? Eh bien, c'est à ça que Paul répond en écrivant à Timothée dans le passage que l'on a lu. Et en fait, Paul va donner deux éléments, deux vérités fondamentales à Timothée qu'il a besoin, dont il a besoin pour tenir bon dans un monde où le mal est roi. Et c'est aussi quelque chose dont nous, on a besoin aujourd'hui pour tenir bon dans un monde où le mal est roi. Deux vérités importantes, deux vérités fondamentales qui nous sont révélées dans ces versets. On va les voir ensemble. La première, c'est de suivre les bons modèles. Et la deuxième, c'est de s'attacher fermement à la parole de Dieu. Suivre les bons modèles et s'attacher fermement à la parole de Dieu. Suivre les bons modèles, premièrement, dans les versets 10 à 13. Il faut reconnaître que le verset 10 contraste beaucoup avec ce qu'on a vu avant. Il est dit « De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance ». Une liste de vertus qui est mentionnée ici et qui contraste vraiment avec ce qu'on avait vu au début du chapitre 3, dans les versets 2 à 4, où il était question d'hommes égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, etc. Bref, des choses pas très glorieuses, pas très gratifiantes. Ici, la liste et ce que Paul met en avant, c'est bien plus positif. Et c'est aussi une liste qui est assez similaire à ce que Paul avait mis en avant à la fin du chapitre 2, quand il avait dit à Timothée « Fuis les passions de la jeunesse ». Et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Donc là, Paul dit, mais tu as suivi mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour. Tu as vu ces choses en moi. Paul est un modèle de ce qu'il demande à Timothée de faire. En fait, c'est un peu comme si on était sur une montagne. Paul et Timothée sont sur une montagne où il y a un chemin qui est étroit, un chemin qui est sinueux, un chemin qui est parsemé de difficultés et où il y a beaucoup d'autres chemins autour qui sont bien plus larges, bien plus faciles, mais qui ne mènent pas au sommet. Et Paul et Timothée sont sur ce chemin difficile et Paul est comme un guide qui est devant Timothée et qui lui dit « Mais c'est par là le bon chemin. Marche dans mes traces. Suis-moi. C'est par ici. » Bah, combien c'est précieux pour Timothée, qui est sur ce chemin difficile et qui peut regarder Paul et qui peut dire « Ah ok, c'est par là que je dois aller, c'est dans cette direction que je dois marcher, je dois continuer, c'est là le bon chemin. » Et on voit que Paul ici est un modèle de différentes choses, on ne va pas regarder tout ça en détail, mais on va juste les mentionner en passant. Il est d'abord un modèle d'enseignement, Paul est un modèle d'enseignement fidèle, qui reste attaché au message des apôtres, oui, mais qui est ultimement le message de Jésus lui-même. Paul est un modèle de quelqu'un qui dit la vérité, même si la vérité dérange. Qui dit la vérité, même s'il doit payer des conséquences pour le fait d'avoir dit la vérité. Même s'il doit être mis en prison, comme il l'est en écrivant cette lettre. Même s'il doit être persécuté, comme il le mentionne un peu plus tard. Mais Paul est aussi un modèle de caractère. Il parle de « ma foi ». Ma patience, mon amour, ma persévérance, ma conduite. Il ne suffit pas d'enseigner la vérité. Il faut aussi vivre la vérité. Il y a un lien entre ce que l'on dit et ce que l'on vit. Et si les deux sont en décalage, bah ce n'est pas du tout crédible. Et notre manière de vivre peut remettre en cause ce que l'on dit. Mais Paul est un modèle de quelqu'un qui avait les deux, non seulement un enseignement fidèle, mais aussi une marche chrétienne fidèle, un caractère digne d'être imité. Digne d'être vu et qu'on pouvait suivre dans ses traces. Modèle d'enseignement, modèle de caractère, mais aussi modèle de souffrance. Il dit au verset 11, « Ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre, quelles persécutions n'ai-je pas supportées ?» Paul a vécu des moments difficiles. Il fait référence ici à trois endroits qui se sont passés au début de son premier voyage missionnaire où il a été persécuté, où il a eu de l'opposition, où il a eu des insultes, où il a eu du rejet et où il a même été lapidé. Les gens croyaient qu'il était mort et l'ont traîné hors de la ville. Donc des persécutions terribles qu'il a vécues et malgré tout, il a persévéré. Il n'a pas abandonné, il n'a pas jeté l'éponge à la première difficulté. C'est un modèle de souffrance et de persévérance dans la souffrance. Et c'est ce qui amène Paul à dire ce qu'il dit au verset 12 et à évoquer une vérité générale pour la vie de chaque chrétien. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Et dans la mesure où c'est une vérité générale qui concerne chaque chrétien et dans la mesure où c'est un thème important de cette lettre de Timothée, la souffrance, je propose qu'on s'arrête juste un petit peu de temps sur ce verset. Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas un verset que Paul écrit pour faire peur, pour décourager, mais pour prévenir que ça va être dur. C'est un verset qui pointe vers une vérité de la vie chrétienne, qui est la nécessité de la souffrance dans la vie chrétienne. Devenir chrétien, ce n'est pas s'engager à avoir une vie facile, dénuée d'épreuves et de difficultés, mais c'est s'engager à suivre un maître qui a été persécuté. C'est de marcher à la suite de nombreux disciples qui ont été persécutés. Et Paul ne dit pas ça ici pour que Timothée recule, pour que Timothée rebrousse chemin, « Ah, ça va être trop dur, abandonne !» Non, mais pour nous encourager à avancer, pour encourager Timothée et nous encourager à avancer en étant préparés, en sachant ce qui nous attend. C'est un peu comme si on reprend cette métaphore de l'orage, de la météo. Il y a un grand orage qui est tombé, comme on a eu vendredi à Bruxelles. Un grand orage, une grosse pluie, c'est terrible. Et ce que Paul dit à Timothée, c'est pas « Ah, reste chez toi, il fait mauvais dehors ». Mais c'est plutôt « Prends ton parapluie, sors et avance ». Prends ton parapluie, sors et avance. Tu es préparé, tu es prévenu. Et les questions ici, pardon, de vivre avec piété. Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Piété, c'est pas le mot le plus à la mode aujourd'hui, mais vivre d'une manière pieuse, c'est simplement vivre d'une manière qui plaît à Dieu, d'une manière qui est agréable à Dieu. Et ici, ça fait simplement référence à la vie chrétienne normale. Vivre avec piété en Jésus-Christ, c'est prendre la foi chrétienne au sérieux. C'est être chrétien dans tous les domaines de sa vie. C'est être chrétien, pas juste le dimanche, mais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est être un chrétien authentique. Et tous ceux qui vivent de cette manière-là, dit Paul, vont être persécutés, vont rencontrer des difficultés. Alors c'est vrai que certains ne seront pas persécutés. Certains ne seront pas persécutés. Ceux qui sont chrétiens de nom, ceux qui portent le nom de chrétien sans l'être réellement. Ceux qui sont chrétiens de famille, qui sont chrétiens parce que voilà, mes parents étaient chrétiens, ma famille est chrétienne, donc moi j'ai pas trop le choix, je suis chrétien. Ceux qui sont chrétiens de culture, où la foi chrétienne c'est juste quelque chose qu'ils ont hérité de leur culture, mais pas quelque chose qui est réel et personnel pour eux, ces gens-là ne seront pas persécutés. Parce que quand ça sera difficile, quand ça va coûter, ils vont mettre la foi chrétienne dans la poche. Ils vont la mettre de côté. Et donc, ils ne vivront pas la vie avec piété en Jésus, la vie chrétienne authentique. Ceux qui sont chrétiens juste le dimanche, par tradition, le seront que quand ça ne coûte pas trop. Et n'auront effectivement pas de difficultés. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne, c'est pas juste une heure ou deux heures le dimanche. C'est pas juste un hobby, c'est pas juste une activité en plus. Non, c'est quelque chose qui est réel, qui est vrai, dans lequel on s'engage. Et plus on prend la foi chrétienne au sérieux, plus on s'expose aux difficultés. Plus on suit Jésus de près, plus on s'expose à la souffrance, comme il a lui-même vécu. De vivre pour plaire à Dieu, de vivre en prenant la foi chrétienne au sérieux, de vivre en prenant la sainteté au sérieux, en détestant le péché, en débarrassant le péché dans notre vie, en dénonçant le péché, ça va nous coûter, tôt ou tard. Ça va nous faire rencontrer des difficultés, de prendre au sérieux l'engagement à suivre Jésus jour après jour dans tous les domaines de notre vie. Ça va nous coûter et c'est inévitable. J'ai reçu cette semaine une vidéo de la part d'une amie qui est missionnaire dans un pays très fortement persécuté. Elle m'a envoyé une vidéo, elle est missionnaire dans ce pays-là, où il y avait deux parties dans cette vidéo en même temps. C'était une vidéo de 10 minutes. Il y avait à droite et à gauche deux choses. À droite, ou à gauche, je ne sais plus. À gauche, on va dire, il y avait des chrétiens de ce pays qui chantaient un chant. Le chant dans plusieurs langues qui disait « J'ai décidé de suivre Jésus. Aucun retour en arrière. Aucun retour en arrière. » Ils chantaient ça de tout leur cœur. Et dans l'autre partie de la vidéo, on voyait différents exemples de persécutions qui avaient eu lieu ces dernières années. Pas juste des persécutions d'il y a très longtemps, mais juste ces 4-5 dernières années. Et la vidéo durait 10 minutes et toutes les peut-être 15 ou 30 secondes, il y avait un nouvel exemple. Des pasteurs, des chrétiens lambda, des hommes, des femmes, des enfants, pour qui la foi avait coûté, qui avaient voulu vivre avec piété en Jésus-Christ et qui avaient été persécutés, qui étaient battus, qu'on frappait juste parce qu'ils étaient chrétiens, à qui on arrachait leurs biens, à qui on brûlait leur maison, qui étaient mis à mort. Des hommes et des femmes, des chrétiens, qui ont pris la foi chrétienne au sérieux. Et de l'autre côté de la vidéo, ils chantaient « J'ai décidé de suivre Jésus. Aucun retour en arrière. Aucun retour en arrière. » Les chrétiens de ce pays-là ont compris que la foi chrétienne coûte et que vivre avec piété en Jésus-Christ, ça va coûter, ça va être difficile, mais ça vaut le coup. Ça vaut la peine. Il faut persévérer, il faut continuer. Alors peut-être que quand nous on entend ça, quand nous on lit un verset comme ça en tant que chrétiens occidentaux qui n'avons pas à craindre d'être mis à mort pour notre foi ou d'être persécutés de cette manière-là, peut-être qu'on ressent une culpabilité presque. On se dit mais c'est peut-être pas normal que nous on soit pas persécutés. C'est peut-être pas normal que nous on vive pas comme ça. Est-ce qu'on est des chrétiens un peu moins sérieux? Est-ce qu'on est des chrétiens qui ont un peu moins de valeur? Non, il faut reconnaître qu'il y a un contexte politique et religieux différent dans chaque pays, et donc c'est normal que la manière de vivre la foi sera différente en fonction des différents pays. Mais surtout, ce qu'on veut mettre en avant et ce qu'on doit dire, c'est qu'on ne veut pas rechercher la persécution, mais on veut rechercher la piété. On veut rechercher de vivre une vie qui plaît à Dieu, de vivre une foi qui est sérieuse, qui est courageuse, qui n'a pas honte de s'afficher, d'afficher ses couleurs. Et en faisant ça, tôt ou tard, de différentes manières, les difficultés, les persécutions vont arriver. Et des fois, je me dis, moi-même, en voyant ma vie, bah, peut-être que si j'étais plus courageux, je souffrirais plus, j'aurais plus de difficultés. Peut-être que si des fois j'avais moins honte de parler de la foi chrétienne, de dire que je crois en Jésus, de dire qu'il m'a sauvé, qu'il m'a racheté, bah, peut-être que ça me coûterait un peu plus. Et dans tous les cas, chacun de nous, ça va nous coûter quand on sera un peu plus courageux. Pour un étudiant qui est à l'UNIF, de suivre Jésus, de prendre des décisions radicales pour suivre Jésus, pour résister à la pression de groupe, pour ne pas vivre dans la débauche, pour honorer Dieu par notre manière d'agir, d'être, de faire, ça va coûter. Ça va être difficile pour quelqu'un de devenir chrétien et de devoir couper certaines relations. Ça va être difficile d'avoir des regards de travers, des incompréhensions, de parler à des amis proches de nous qu'on aime beaucoup, de savoir qu'il faut qu'on leur parle de ce message de salut, de ce jugement qui les attend, qu'ils méritent, de la repentance à laquelle ils sont appelés, de Jésus qui est mort et ressuscité pour qu'ils soient sauvés. Il faut qu'on leur en parle. Et on sait qu'ils ne vont peut-être pas bien le prendre. On sait que ça va peut-être brouiller notre amitié. Ça va coûter. L'incompréhension de la part des amis, de la famille, parce que Jésus est tellement important pour nous, ça va aussi nous coûter. Mais dans tout cela, même si c'est difficile, oui, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Et pourtant, je ne sais pas si vous avez fait attention à la fin du verset 11, après que Paul ait parlé de ses difficultés, de ses épreuves, il dit « Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Le Seigneur m'a délivré de toutes. Dieu était là. Ce n'est pas une promesse que tout va aller bien. Tout n'allait pas bien pour Paul d'un point de vue humain. Il continuait à passer par les difficultés, par les persécutions, mais il savait que dans tout ce qu'il vivait, dans tout ce qu'il traversait, Dieu était là pour le secourir, pour l'aider et pour l'accompagner. Voilà le modèle de Paul, un modèle d'enseignement, de caractère, de souffrance. Ce n'est pas que sa vie était parfaite, mais sa vie était digne d'être imitée. Il pouvait dire à Timothée, « Suis-moi sur ce chemin, c'est par ici, c'est ici la bonne route. » Et si nous, on veut survivre quand le mal est roi, si nous, on veut survivre quand la vie chrétienne n'est pas facile, alors on a besoin de bons modèles. Et qu'on le veuille ou non, on a des modèles, on a déjà des modèles, on a des gens qui nous influencent. C'est ceux avec qui on passe le plus de temps. Nos amis les plus proches, c'est eux qui nous influencent. Ou c'est les comptes que l'on suit sur Instagram, les vidéos qu'on regarde sur YouTube, tout ce qui nous entoure sur Internet. Ça, ça nous influence. Ça façonne notre conception de qui est Dieu, notre conception de la vie chrétienne. Et donc, il faut qu'on se demande, mais est-ce que ce sont des bons modèles ou des mauvais modèles? Est-ce que ce sont des bons modèles d'un enseignement fidèle, attaché à la parole, d'un caractère qui est digne, qui est à la hauteur, des modèles de souffrance qui sont prêts à persévérer même quand c'est dur, ou est-ce qu'ils nous donnent une vision déformée de la vie chrétienne? Et c'est là qu'on réalise l'importance de l'Église, l'importance de développer dans l'Église des amitiés fortes et profondes, avec des chrétiens qui vont nous pousser vers le haut, qui vont nous montrer à quoi ça ressemble la vie chrétienne. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste se limiter de l'Église le dimanche matin pendant 1 heure ou 1h30 et puis partir ensuite, parce qu'on n'a pas le temps pendant ces 1 heure ou 1h30 de voir à quoi ressemble la vie chrétienne, de voir en quoi les chrétiens qui nous entourent sont des bons modèles. On a besoin pour ça d'avoir des amitiés fortes et profondes, des relations, de vivre la vie ensemble. Et en le faisant, on verra différentes personnes qui nous montreront « Ah, mais voilà à quoi ça ressemble d'être un père chrétien, d'élever ses enfants dans la crainte du Seigneur, de s'impliquer dans l'Église tout en ayant son travail à côté. Ah, voilà ce que ça ressemble d'être une mère chrétienne qui aime ses enfants, qui veut leur transmettre la foi, qui s'investit, qui s'implique. Ah, voilà à quoi ça ressemble d'être un célibataire qui vit son célibat pour la gloire de Dieu. Ah, voilà à quoi ça ressemble d'être un seigneur qui utilise son temps d'une manière différente pour la gloire de Dieu. On verra différents exemples, différents modèles qui nous montreront, ah, c'est par ici le bon chemin. C'est là qu'il faut continuer à marcher. Et ce n'est pas juste qu'on veut uniquement côtoyer des gens qui sont plus matures que nous, parce qu'on veut nous aussi être des modèles et des influences pour les autres. Et donc on peut se demander, mais est-ce que ma vie est digne d'être imitée? Ce n'est pas qu'elle a besoin d'être parfaite, mais c'est qu'on a besoin d'être sur le bon chemin et de pouvoir dire aux autres, mais c'est par ici le bon chemin, c'est par ici qu'il faut marcher. Est-ce qu'on laisse des gens rentrer dans notre vie pour voir, nous voir vivre, Ou est-ce qu'on a une vision de la foi chrétienne qui est individualiste, qui est égoïste, où on ne partage pas ce que l'on vit? Non, on a besoin de s'ouvrir et de partager nos luttes, nos joies, nos peines, nos fardeaux, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on est, pour que d'autres voient et d'autres soient influencés aussi à marcher sur le bon chemin. Quand le mal grandit, quand le mal est roi, il faut suivre les bons modèles qui nous montrent le bon chemin. Ça, c'est la première chose que Paul veut dire à Timothée. Et la deuxième chose vers laquelle on se tourne maintenant, c'est qu'il faut s'attacher fermement à la parole de Dieu. Il faut s'attacher fermement à la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a un contraste dans les versets 13 et 14. Je vais les relire dans un instant. On a un contraste marquant. Le verset 13 nous dit « Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, Paul qui parle à Timothée, quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. » Tiens ferme. Il y a d'autres qui prennent d'autres chemins, des chemins alternatifs. Mais en prenant d'autres chemins qui ne mènent pas au sommet, non seulement ils s'égarent eux-mêmes, non seulement ils égarent les autres, mais aussi ils s'égarent eux-mêmes. Donc ne les suis pas. Toi, reste, Timothée, sur le bon vieux chemin. Garde l'enseignement qui t'a été confié. Et ceci, ça nous montre que la foi chrétienne n'est pas intéressée par la nouveauté. On vit dans un monde qui est intéressé par la nouveauté et où c'est ce qui est nouveau qui a le plus de valeur. Si on regarde l'iPhone qui date de 2012, franchement, il est vraiment dépassé, il est un peu ringard, il est ridicule. Et c'est le nouvel iPhone ou le prochain iPhone qui est vraiment à la mode et qui nous semble vraiment beau et attirant. Et il y a le danger d'appliquer les mêmes principes à la foi chrétienne, de penser qu'on a trouvé des nouvelles choses pour rendre la foi chrétienne plus pertinente, pour rendre la foi chrétienne vraiment valide pour notre époque, pour notre temps, pour donner un nouveau regard sur la foi chrétienne. Et vous trouvez là-dessus des vidéos sur YouTube. Ah, qu'est-ce que la Bible enseigne vraiment sur... J'ai regardé cette semaine une vidéo qui disait « Qu'est-ce que la Bible enseigne vraiment sur l'homosexualité ?» Et dans cette vidéo, c'était juste une vision totalement contraire à ce que la Bible enseigne, à ce que les chrétiens ont toujours cru, qui était partagée, comme si enfin on avait trouvé quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf à ajouter à la foi chrétienne, qui allait modifier ce qu'était la foi chrétienne et le rendre plus pertinent pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça qu'est la foi chrétienne. La foi chrétienne n'est pas intéressée par la nouveauté, mais par la fidélité au message ancien qui a été transmis. Le bon vieux message de l'Évangile. Vous savez, on chante ici parfois dans l'Église le cantique « Redites-moi l'histoire ». Et en anglais, ce cantique, littéralement, c'est « Redites-moi la vieille, vieille histoire ». Mais je trouve ça tellement bien parce que c'est ça. C'est une vieille, vieille histoire, mais dont on a toujours besoin, qui est toujours aussi belle, qui est toujours aussi nouvelle, qu'on doit garder telle qu'elle, fidèlement. On n'est pas intéressé par la nouveauté, mais par la fidélité. Tiens ferme dans ce que tu as appris. Et ce n'est pas parce que ce serait vieux, donc ce serait meilleur, mais c'est parce que c'est vrai, et donc c'est meilleur. C'est ce que Paul dit au verset 14, il dit « Tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain ». Donc c'est non seulement, oui, des choses que Timothée a apprises depuis son enfance, comme on va le voir, il a appris ces choses, mais aussi il a reconnu que c'était vrai. Il a pris le temps de creuser, de s'arrêter, de se dire « Mais est-ce que ça, c'est réel, c'est vrai pour moi ?» Et il a reconnu que c'était vrai pour lui. Et là, je me permets d'adresser un message aux ados de l'Église, à tous ceux qui ont grandi ou qui grandissent dans une famille chrétienne. Vous avez appris des choses depuis votre enfance par rapport à Dieu, par rapport à la Bible, par rapport à Jésus. Mais est-ce que vous avez reconnu que c'était vrai? Est-ce que vous avez pris le temps de vous arrêter, de creuser, de vous dire « Mais est-ce que c'est réel pour moi, ça aussi ?» Il ne faut pas juste absorber les choses par cœur, les prendre telles quelles, mais il faut vous arrêter et vous dire « Mais qu'est-ce que je fais de la foi chrétienne ?» Est-ce que ça tient la route au final? Est-ce que c'est pertinent? Parce que quand vous ferez cela, vous verrez, comme beaucoup d'autres dans l'Église l'ont reconnu, que c'est vrai, que ça tient la route, que c'est réel, que vous pouvez baser votre vie là-dessus. Mais vous devez avoir ce moment où vous arrêtez, où vous vous posez les bonnes questions et vous vivez en conséquence. Et Paul donc dit, voilà, tiens ferme dans ce que tu as appris, retiens cet enseignement. Et il va donner dans ce passage plusieurs raisons, on ne va pas avoir le temps de voir toutes ces raisons-là, mais plusieurs raisons de rester attaché à cet enseignement-là. On va en voir trois. La première, on va passer dessus juste rapidement. D'abord, c'est en raison de qui te l'a enseigné. Il dit, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. En raison de qui tu as appris ces choses, Timothée, reste-y attaché. Et il est mentionné juste après que depuis son enfance, Timothée connaît cela. Et donc ça fait référence à tout ce qu'il a appris depuis qu'il est tout petit. Et on sait aussi, plus tôt dans 2 Timothée, il était parlé de sa mère et de sa grand-mère. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 5, « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » C'est Paul qui parle à Timothée. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » Sachant de qui tu l'as appris, c'est probablement ici référence à sa mère et à sa grand-mère, à Eunice et à Loïs, qui ont transmis la foi à Timothée, qui ont partagé les écrits sacrés, les écrits qui viennent de Dieu, à Timothée depuis sa plus jeune enfance, depuis qu'il est tout petit. Et leur caractère de Eunice, de Loïs, prouve à Timothée que c'est vrai, que c'est digne de confiance. Souviens-toi de qui t'a appris ces choses. Regarde comment elle vivait. Et reconnaît que c'était vrai, que c'est pertinent, que c'est réel. Et donc ici, on a un message pour tous les parents chrétiens. L'importance des parents chrétiens dans la transmission de la foi. Vous vous êtes appelés à faire connaître les vérités de Dieu dès le plus jeune âge de vos enfants. C'est votre rôle, c'est votre responsabilité. Parce que si vous ne le faites pas, alors qui va le faire? Qui va le faire de transmettre ces écrits sacrés, ces vérités précieuses qui viennent de Dieu lui-même à vos enfants? Oui, c'est vrai qu'il y a l'école du dimanche à l'église et c'est une bonne chose, mais l'école du dimanche, ce n'est pas pour déléguer cette tâche qui vous incombe à des professionnels, parce que c'est juste une heure sur 168 heures qu'il y a dans la semaine. C'est rien. C'est plutôt un supplément, l'école du dimanche, pour vous aider dans le rôle principal que vous avez envers vos enfants, de leur transmettre la foi. Et je vous encourage à parler avec d'autres parents chrétiens dans l'église, pour leur demander comment ils font ça, pour leur demander leurs conseils, des ressources, de comment faire un culte en famille, de comment transmettre la foi aux enfants jour après jour. C'est précieux, c'est votre rôle privilégié. Mais ensuite, pourquoi Timothée doit rester attaché à ce bon enseignement? Parce que c'est la parole de Dieu. Et on a ce verset 16, enfin les versets 15 à 17 qui sont vraiment magnifiques pour nous enseigner par rapport au caractère de la parole de Dieu. Il est parlé dans ces versets des écrits sacrés ou de l'écriture. Alors c'est vrai que c'est un mot qui désigne avant tout, dans ce contexte-là, l'Ancien Testament. C'est dans cela que Timothée a été enseigné par sa mère, par sa grand-mère, l'Ancien Testament. Mais on sait à propos d'autres utilisations qui sont faites de ce mot écriture dans le Nouveau Testament, que ultimement ça pointe vers quelque chose de plus large. Ça pointe vers tout écrit qui porte l'autorité de Dieu, tout écrit qui a été communiqué par Dieu lui-même. Et donc ces versets sont légitimes pour nous parler du caractère de la Bible elle-même. La Bible entière, les 66 livres de la Bible. Et il est dit des choses merveilleuses sur cette Bible. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Quand il est dit ici que la Bible est inspirée de Dieu, ce n'est pas inspiré comme quand un peintre fait un dessin. Voilà, il regarde peut-être quelque chose et puis il va le reproduire, il va le peindre, mais suivant le courant de peinture dans lequel il est, je ne connais pas trop ces trucs-là, mais voilà, suivant un peu ses ce qu'il aime, etc., et ben ça ressemblera peut-être plus ou moins réellement à ce qu'il a vu. Ça pourrait être un peu comme un Picasso, on se dira, ouais, c'est un peu bizarre, et ça ne ressemble pas tout à fait à l'origine. Mais quand il est dit ici que la Bible est inspirée de Dieu, littéralement, en fait, c'est de dire qu'elle a été soufflée par Dieu. C'est qu'elle vient de la bouche même de Dieu. Toute la Bible a été soufflée par Dieu. Tout ce qui est contenu dans la Bible, ça vient de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu. Oui, bien évidemment, la Bible a été écrite par des auteurs humains. On étudie un livre qui a été écrit par l'apôtre Paul. Mais ultimement, ce que ce passage et d'autres passages de la Bible nous enseignent, c'est que alors que Paul écrivait avec sa personnalité, oui, avec tout ce qu'il est, bien c'était Dieu qui était à l'œuvre en lui, pour que ce que Paul écrive et ce que l'on voit aujourd'hui, ça soit exactement et précisément ce que Dieu voulait nous communiquer. Et c'est pour ça qu'on dit que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et donc c'est pour ça qu'on dit que la Bible est sans erreur. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas dire des choses qui sont fausses. Et il ne peut pas se tromper. Il connaît toutes choses. Et donc quand Dieu parle, quand Dieu s'exprime, peu importe le sujet sur lequel il s'exprime, c'est vrai. Et on peut lui faire confiance. C'est solide comme du roc. Et donc ça nous montre que la confiance inébranlable qu'on peut avoir dans la Bible aujourd'hui, de pouvoir l'ouvrir, de savoir, c'est Dieu qui parle. La Bible est vraie. Il n'y a pas d'erreur. Et chaque texte pris dans son contexte sera ultimement ce que Dieu voulait nous communiquer, et la parole même de Dieu. Mais ça nous montre aussi que la Bible, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Imaginez recevoir une lettre de la part du roi Philippe. Quel privilège ! Vous allez la lire, vous allez l'apprécier, vous allez vous sentir vraiment privilégié. Et imaginez-vous maintenant recevoir un livre entier de la part du Dieu de l'univers, par lequel il se révèle à nous, par lequel il se fait connaître à nous. Quel privilège immense ! Imaginez demain matin, vous vous levez avant de commencer votre journée, votre semaine, vous voulez lire un peu la Bible, vous êtes fatigué, vous avez mal dormi, vous avez vraiment la tête dans le brouillard, vous prenez un café, vous ouvrez la Bible, et là, qu'est-ce que vous y trouvez ? Est-ce que c'est simplement une suite de mots, une suite de récits, une suite d'histoires ? Non, c'est bien plus que ça. Oui, il s'agit de mots, de récits, d'histoires, mais qui ultimement viennent de Dieu lui-même, par lequel Dieu veut nous parler. Et ce n'est pas qu'on met notre cerveau de côté parce que c'est la parole de Dieu. Non, on veut comprendre, on fait chauffer nos cerveaux, on a un travail à faire pour comprendre ce qu'il est dit ici. Mais alors que l'on comprend ce qu'il est dit ici, comme on le fait en ce moment même pour cette partie de la Bible, ben on réalise, waouh, mais c'est la parole même de Dieu, c'est Dieu qui parle. Reste attaché à ce livre, c'est la parole de Dieu. Et enfin, reste attaché à cet enseignement qui t'a été transmis parce que dedans, tu as tout ce dont tu as besoin. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. L'écriture est utile pour que Timothée puisse accomplir le ministère auquel il est appelé. Il a tout ce dont il a besoin là-dedans. Et ce n'est pas juste utile dans le sens, c'est utile mais pas indispensable. On a des choses qui sont utiles mais pas indispensables. Nos cuisines sont remplies de choses qui sont utiles mais pas indispensables. J'ai chez moi un ustensile pour couper les légumes en petits morceaux. Voilà, on tire et puis ça coupe les légumes, c'est vraiment pratique. C'est utile mais c'est pas indispensable, je pourrais le faire à la main. Mais ici, quand il est dit que l'écriture est utile pour le ministère auquel Timothée est appelé, c'est que c'est indispensable. Il ne peut pas le faire sans. Il a besoin de la Bible pour tenir dans les temps difficiles, et nous aussi, pour tenir dans ce monde où le mal est roi, où l'impiété grandit. On a besoin de la Bible. On a besoin d'être attaché à la Bible. On ne pourra pas tenir sans. Et donc la meilleure chose qu'on puisse faire pour se préparer à cela, c'est de devenir des experts de la Bible dans un sens. Pas juste experts dans le sens intellectuel, mais des gens qui aiment la Bible, qui la vivent, qui se laissent transformer par elle. Nos cœurs, nos pensées, nos affections qui sont saisies par la Bible pour nous transformer. Tu as besoin de la Bible. Et ce n'est pas juste que Paul dit à Timothée, tu as besoin de la Bible, mais il dit tu as besoin de la Bible et c'est tout ce dont tu as besoin. Tu n'as rien besoin d'autre. Littéralement, le verset 17, on pourrait traduire « afin que l'homme de Dieu soit complet ». Parfaitement, pleinement équipé pour toute œuvre bonne. Dans la Bible, il y a tout ce qu'il te faut, Timothée, pour accomplir ton ministère. Les pasteurs, les enseignants n'ont pas besoin d'être des champions de la rhétorique, des maîtres de la communication visuelle ou quoi que ce soit d'autre, mais ils ont besoin d'être des chrétiens qui sont attachés à la Bible. Et en étant attachés à la Bible, ils ont tout ce dont ils ont besoin pour accomplir leur ministère. Et c'est de la même manière pour chaque chrétien. Ce verset pointe vers une réalité profonde par rapport à la Bible et qu'on dit souvent par rapport à la Bible, c'est que la Bible est suffisante. On n'a rien besoin de plus. Ce n'est pas de dire qu'on n'a pas des choses autres qui sont utiles et qui peuvent nous aider et nous faire grandir, mais c'est que la Bible est suffisante pour que l'on soit sauvé, pour qu'on soit en bonne relation avec Dieu et que la Bible est suffisante pour qu'on vive une vie qui plaise à Dieu, qui honore Dieu, qui glorifie Dieu. On n'a rien besoin que Dieu ne nous ait pas révélé. Tout est là, dans la Bible. Et c'est quelque chose qui est assez facile à affirmer, auquel adhérer en théorie. Mais c'est souvent remis en cause dans la pratique. Les Mormons, par exemple, vont dire que la Bible est importante, et même très importante. Et pourtant, ils vont ajouter le livret des Mormons, auquel ils vont donner une autorité qui sera égale à la Bible. Et en faisant ça, ils vont renier le fait que la Bible est suffisante, que c'est la révélation ultime et infaillible de Dieu. L'Église catholique romaine va dire que la Bible est importante et même très importante. Et pourtant, ils vont mettre sur le même niveau là, la tradition ou certaines déclarations du pape, en disant que ça aussi, c'est les paroles infaillibles de Dieu. Mais faire cela, c'est rabaisser la Bible. C'est dire que la Bible n'est pas suffisante, que Dieu ne nous a pas tout révélé, qu'on a besoin d'autre chose que Dieu ne nous a pas révélé. C'est pas juste que la Bible est un livre important. C'est même pas juste que la Bible est un livre très important. Mais c'est que c'est le seul livre qui est la parole de Dieu. C'est la seule autorité infaillible pour notre vie, pour notre foi. Et donc quand on veut entendre la voix de Dieu, c'est vers la Bible qu'on va se tourner. La Bible qui sera expliquée, qui sera lue, qui sera prêchée, qui sera enseignée. C'est là qu'on entendra la voix de Dieu. On recherche aujourd'hui la voix de Dieu un peu à droite, à gauche. On veut entendre Dieu nous parler. Et il y a ce danger de chercher la voix de Dieu partout sauf au bon endroit. Dans des rêves, dans des visions, dans des pensées, dans des circonstances. On n'est pas appelé à faire cela. Je discutais il y a quelque temps avec un jeune chrétien, sur Instagram qui me disait cela et je lui mettais en avant justement ce que je mets en avant ici, le caractère infaillible et suffisant de la Bible. Et il m'a répondu, mais ce serait un peu triste si on avait juste la Bible pour entendre Dieu nous parler. Non, c'est pas triste si on réalise ce qu'est la Bible. C'est pas triste si on prend en compte ces versets. La Bible est la parole de Dieu, où Dieu nous parle, et c'est pleinement suffisant pour nous. Ou alors quand on recherche la volonté de Dieu, on se dit, mais ce serait plus simple si Dieu me révélait sa volonté, ce serait plus simple si Dieu me parlait. Si Dieu se révélait à moi, maintenant, directement, mais on oublie que Dieu a déjà parlé. Ce n'est pas qu'il va répondre à toutes nos questions dans les détails, mais c'est qu'il nous a révélé tout ce dont on a besoin pour nous-mêmes réfléchir, répondre aux questions et prendre les bonnes décisions qui seront révélées, qui seront sûres d'être, de venir de Dieu. C'est rassurant tout cela, parce que ça veut dire qu'il n'y a rien que Dieu attend de nous qui ne nous est pas révélé dans la Bible. On a tout ce qu'il faut pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Alors pour terminer, alors que le mal grandit, que les prévisions météo ne sont pas bonnes, est-ce qu'on est prêt à s'attacher à la Bible et rien qu'à la Bible, même quand ça va coûter? Est-ce qu'on est conscient qu'on a besoin de s'attacher à la Bible et rien qu'à la Bible? Est-ce qu'on est conscient de la valeur précieuse et inestimable de la Bible? Cette Bible qui est la parole même de Dieu. Pardon. Et cette Bible qui nous parle ultimement, comme on le voit ici, on n'a pas parlé de ça, mais qui nous parle ultimement du salut par la foi en Jésus-Christ, qui nous révèle la grandeur et l'œuvre de Jésus, qui nous sauve parfaitement de sa mort sur la croix, qui nous permet d'avoir une relation rétablie avec Dieu. C'est de ça dont on a besoin pour tenir bon. Ça et rien que ça. Et ça, c'est merveilleux, c'est précieux, et c'est ce qu'on a besoin de se rappeler ce matin. Je vais terminer en priant et puis on chantera un dernier chant ensemble. Prions. Oui, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que tu t'es fait connaître à nous. Merci parce que la Bible vient de toi et parce qu'elle est pleinement suffisante. On te prie alors que le mal grandit, que l'on puisse s'attacher à la Bible et rien qu'à la Bible. Que l'on soit des chrétiens qui aiment ta parole, qui se laissent maîtriser et contrôler par ta parole. On te prie que cette Bible nous amène à aimer davantage Jésus, sa personne et son œuvre, et à vivre des vies qui le glorifient. Et on prie ça en son nom. Amen.